Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Salut la team podcast, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, vous le savez, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de mentoring par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat majoritairement, mais aussi du business de façon générale, du marketing, des RH, des réseaux sociaux et bien plus. Car l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Laura, qui est entrepreneur depuis 2014. Sa boîte grandit vite et bien que ça soit le cas, elle se pose la question suivante. Quel est le rôle des fondateurs lors d'un fort développement de l'entreprise? Surtout, comment prendre de bonnes décisions quand on ne maîtrise plus les sujets par manque de compétences, par exemple au niveau juridique ou comptable? Excellente question de Laura. Merci mille fois de la poser. Parce que oui, vous êtes entrepreneur et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les sujets que vous abordez dans le cadre du développement de votre activité sont devenus bien trop techniques pour que vous puissiez les aborder vous-même. C'est à ce moment-là qu'il faut se faire accompagner, bien évidemment, mais pas n'importe comment. Alors dans cet épisode, j'ai donné à Laura mes conseils, qui n'engagent que moi bien sûr, pour l'aider à trouver les bons prestataires techniques, juristes, avocats, comptables par exemple, pour prendre les bonnes décisions au quotidien pour son business. Et vous allez voir, la bonne méthode selon moi n'est pas forcément celle que l'on aurait anticipée. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Laura ?
Oui, Pauline.
Salut Laura, bienvenue sur Le Gratin, bienvenue sur la leçon du gratin, j'espère que tu vas bien. Est-ce que Laura, tu peux commencer par te présenter et puis m'expliquer quel est ton problème et comment je peux essayer de t'aider?
Oui, bien sûr, du coup, pour te mettre un petit peu dans le contexte, je ne suis pas dans une étape de création d'entreprise, j'ai parcouru, on va dire, quelques années déjà. Je me suis lancée en 2014 en freelance en tant que chef de projet en marketing et communication, après deux expériences en salarié. Voilà, je fais un petit peu le premier grand pas dans l'entrepreneuriat. Et très vite, par mon métier, j'ai besoin de travailler avec d'autres experts et en l'occurrence d'autres freelance. Donc, je crée une petite dream team pour répondre aux besoins de mes clients. Et de là me vient l'idée de créer un collectif qui s'appelle aujourd'hui la Collab, que j'ai cofondé avec une associée qui s'appelle Célia. Quand on s'est rencontrés, on se dit, voilà, pour optimiser, on va dire, notre façon de travailler et aussi mieux accompagner nos clients, un collectif de freelance répond à un besoin. Donc, on se dit, on va faire un petit truc et sans vraiment une grande ambition. Et en fait, on s'est un peu retrouvé propulsé, on va dire, dans ce qu'est la collab aujourd'hui. C'est 60 freelance qui travaillent quotidiennement.
Génial.
Et plus de 400 qui sont référencés, c'est-à-dire qui ont témoigné un intérêt pour rejoindre le collectif. Donc c'est vrai que c'est génial, mais c'est aussi du coup beaucoup de pression. Et plus on est nombreux, plus la promesse à tenir est importante, on va dire. Et du coup, ma question est orientée un petit peu autour de ça. Mon métier, il a amené un petit peu, et mon rôle est amené à évoluer. Je ne peux plus être 100% freelance et accompagner mes clients. Et du coup, c'est vrai que cette évolution, je sens qu'il y a un cap à passer et qu'il faut que je passe moi-même ce cap pour que la boîte et le collectif puissent la passer. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. je sais pas trop comment trouver ma place, quelles sont mes vraies missions, où j'ai vraiment de la valeur. Je suis sur plein de tâches où je ne comprends rien à ce qui se passe.
c'est normal, Laura. Écoute, franchement, merci pour ta question parce que je pense que cette question, peut-être que tu as l'impression d'être un peu la seule dans tes soucis, mais je peux te garantir que c'est une question que à peu près tous les entrepreneurs se posent à un moment dans leur carrière, qui est le passage, en fait, finalement, du technicien, de la personne, de l'artisan presque, si tu veux, au dirigeant. En fait, c'est vraiment ça. Tu es en train de devenir une dirigeante d'entreprise alors que avant tu étais un porteur de projet, une porteuse de projet et que tu étais plus focalisée finalement sur des tâches et sur tes compétences et en fait là va falloir que tu apprennes à manager des équipes, à diriger en fait des gens, à avoir une vision et surtout à déléguer et à faire des choses que parfois tu aimais faire, parfois tu aimais pas faire mais que tu vas plus pouvoir faire en tout cas au quotidien. Donc là où déjà je peux te dire essayer de te rassurer, c'est normal que ça fasse peur, c'est pas facile, deuxièmement. Et troisièmement, la bonne nouvelle, si je vois le verre à moitié plein, par contre, on s'en sort et il y a des solutions. Pour essayer de t'aider au mieux, peut-être que le mieux, c'est que je te pose quelques questions. Tu me disais, je trouvais ça intéressant, en gros, je comprends pas forcément tout. Et puis, par ailleurs, les trucs sur lesquels j'avais des compétences, je sens bien qu'aujourd'hui, c'est pas là où finalement j'ai beaucoup de valeur ajoutée. Parce que j'imagine qu'en fait, toi aujourd'hui, tu continuais à pas mal travailler avec des clients en direct, donc sur le produit, si je puis dire. C'est ça. Et en gros, tu te rends compte, si j'ai bien compris, que tu dois plus développer l'activité de l'entreprise. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose que tu as l'habitude de faire, c'est ça?
Et en fait, j'arrive à déléguer en fait les sujets que je maîtrise particulièrement bien, qui touchent au marketing et la communication. Mais par exemple, des sujets, par exemple, on travaille en ce moment sur la gouvernance, sur le modèle juridique, sur tout ce qui est RSE. En fait, comme ce sont des sujets que je maîtrise mal, je sais qu'il faut que je me fasse accompagner, mais j'ai la sensation que même quand je suis dans l'écoute et que je fais confiance à quelqu'un, j'ai plus mon propre arbitre pour savoir quelle est la bonne solution et etc. Et du Bien coup, c'est un petit peu compliqué. On dit souvent qu'il faut pas trop écouter les gens qui conseillent parce que tout le monde a un petit peu sa propre idée, mais finalement, quand on est soi-même limité, on est obligé d'écouter, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Bah, surtout si t'as pas la connaissance et sur des sujets techniques, juridiques, financiers, de comptabilité. En fait, si tu veux, toi, ton bon sens d'entrepreneur et ta vision et là où tu veux aller, ça restera toujours les tiens et ça sera toujours à toi, si tu veux, de décider et de prendre la décision finale. Après, si tu veux savoir interroger les bons prestataires, réussir à collaborer avec eux, les challenger et creuser les sujets avec eux, mais en fait, écouter aussi leurs recommandations. Ça, si tu veux, c'est vraiment ton métier d'entrepreneur. Je te donne un exemple. Moi, dans ma boîte, bien des fois, avec mon associé, on est obligé de, évidemment, demander des avis sur des sujets techniques, de par exemple propriété intellectuelle, à des avocats. Évidemment, en fait, on n'a pas la vérité révélée les dessus. Avec le temps, comme ça fait maintenant plusieurs fois, si tu veux, qu'on pose des questions, en fait, on commence à avoir plus de connaissances et du coup, nos questions sont de plus en plus pertinentes. Et donc, toi, si tu veux, il faut que tu gardes de la même manière cet état d'esprit de curiosité, de même si c'est des sujets qui te passionnent pas forcément, tu sais qu'ils sont importants, je dis n'importe quoi, des sujets comptables, des sujets financiers, il faut quand même que tu te dises que tu as envie de comprendre les grands concepts. Il faut pas avoir peur, si tu veux, de ce genre de sujet technique parce que tout ça, ce sont des outils. C'est pas souvent, en fait, c'est pas très intuitif. Parce que comme c'est des experts qui les maîtrisent, ils vont utiliser des jargons qui sont parfois franchement pas très accessibles. Mais la réalité, c'est que les concepts derrière souvent sont pas très compliqués. Et donc toi, ton rôle d'entrepreneur, sincèrement à ce stade, c'est deux choses. C'est de trouver les bonnes personnes et deuxièmement, de poser des questions et d'apprendre et de ne pas avoir peur de poser des questions avec vraiment sans relâche, si tu veux, avec pour objectif de comprendre les grands concepts. Et ensuite, comme ça, ça va te permettre de pouvoir à terme challenger les personnes avec lesquelles tu travailles. Parce que le but, c'est pas que tu le fasses toi-même, c'est pas que tu deviennes juriste. Le but, c'est pas que tu deviennes expert comptable. Mais par contre, que tu sois capable d'identifier si jamais ton prestataire, il est bon ou il est pas bon. Et deuxièmement, quand tu as des nouveaux sujets qui arrivent, que tu puisses, par exemple, les guider en leur disant, bah là, je pense qu'il faudrait aller par là. Là, je pense que, en fait, ça sera un bon angle d'attaque, etc., etc. Mm-hmm. Encore un exemple, avec un avocat, si tu veux, un avocat, je dis n'importe quoi, beaucoup de personnes me posent en ce moment la question de, je veux déposer un nom pour ma future boîte, mais ce nom est déjà pris, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux aller voir un avocat dans ce genre de cas et un peu bien en tête lui dire comment je fais pour faire un procès, à la personne qui a déjà pris ce nom pour essayer de le prendre. Ça, c'est une manière de le faire. Une deuxième manière de le faire, c'est de se dire, OK, peut-être qu'un moyen plus intelligent, c'est de passer par une procédure, par exemple la procédure de déchéance qui permet justement, quand une personne n'a pas utilisé un nom pendant des années, de pouvoir se l'approprier. Et ça, par exemple, c'est une procédure qui est beaucoup plus simple. Si jamais tu as cette connaissance, tu vois, si tu veux, qui est une connaissance finalement assez simple, tu vas pouvoir guider ton avocat en lui disant, moi, je pense que la procédure de déchéance est bien. J'aimerais avoir votre conseil sur est-ce que, selon vous, si jamais on fait ça, déjà, combien ça va me coûter? Combien de temps ça va prendre? Et est-ce que vous pensez qu'il y a 50% de chances que ça marche, 20% de chances ou 85%? Un avocat, si tu veux, ou un conseil, c'est ça, si tu veux, son rôle. Ça va pas être de dire ce qu'il faut faire. Lui, il va jamais te dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est plutôt bien. C'est toi qui dois prendre la décision. Mais par contre, il va pouvoir te donner des clés, de l'information pour que toi, tu puisses prendre ta décision. Mais du coup, pour que tu aies cette information, faut lui poser des questions. Tu vois, faut lui poser des questions parce que sinon, en fait, il va juste parfois bosser. Et en plus, comme on sait que ça peut coûter assez cher, ça va te coûter une fortune pour... je dis pas des résultats qui sont pas bons, mais pour des résultats qui sont pas forcément ceux dont tu as besoin, tout simplement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, un, il faut pas que t'aies peur de poser des questions. Je pense que ça, c'est quelque chose quand on n'a pas, tu vois, de formation, qu'on a un petit syndrome de l'imposteur, on peut avoir tendance à se dire, non, mais en fait, je devrais savoir ça, je suis un peu nulle. Franchement, je te jure, Laura, mais 80% des gens, même eux, même les techniciens, parfois, quand tu leur poses une question qui paraît débile, souvent, plus la question paraît débile, moins elle l'est. Parce que tu leur dis, mais ça, en fait, j'ai pas bien compris c'est quoi exactement. Tu vas te rendre compte que même eux, parfois, ils ont du mal à le dire, parce qu'ils sont devenus tellement experts, si tu veux, que les concepts simples, ils les ont oubliés. Reste vraiment dans l'état d'esprit de te dire, c'est toi qui connais ton business, tu dois surtout avoir du bon sens, c'est le plus important. Et c'est ça ton rôle de dirigeant d'entreprise. C'est pas d'être une technicienne, si tu veux, juridique ou financière. Et si tu fais ça, je pense que ça va te permettre de voir aussi quels sont les types de personnes avec lesquelles tu travailles le mieux et peu à peu, si tu veux, de te créer un peu une équipe, si tu veux, même si elle est externalisée, d'experts avec lesquels tu vas pouvoir travailler et tu vas pouvoir puiser dedans. C'est un peu comme des mentors, tu vois. Tu en auras un juridique, un RH peut-être, un comptable, sur tous ces sujets que tu ne maîtrises pas parfaitement, mais qui vont vraiment pouvoir te guider quand tu auras des questions.
C'est vrai que c'est intéressant. Du coup, mon rôle, c'est de poser les bonnes questions. Et puis ensuite, pour savoir à qui faire confiance et pouvoir prendre mes décisions, finalement, ce seront les personnes qui m'y répondront le mieux, enfin en tout cas de la façon la plus claire et pour moi par rapport à mon business que vers lesquels j'irai naturellement en fait.
Exactement, parce que tu vois, si je te donne un exemple, si jamais tu poses une question à un avocat, mettons, même c'est un très bon avocat qui coûterait très cher, etc., qui serait formidable et qui serait très technique, peut-être qu'il va te répondre de manière hyper technique. Mais si toi, derrière, en tant qu'entrepreneur, tu captes rien, parce que, en gros, le type, il est tellement technique, il s'adresse tellement habituellement qu'à d'autres personnes qui sont très techniques, que du coup, la collaboration, votre collaboration, elle est pas très fructueuse, parce qu'en gros, juste, tu acquiesces à tout ce qu'il dit, mais en fait, la vérité, c'est que tu n'as pas compris. Mais fuis cette personne, pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est méchante, pas parce que c'est pas un bon professionnel, mais juste parce que vous n'êtes pas adapté. Alors que peut-être qu'un autre avocat ou un autre juriste ou un autre expert comptable qui a les bons mots, si tu veux, pour t'expliquer et pour finalement t'aider, parce que son rôle, c'est vraiment ça dans ta prise de décision, là, vas-y. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je te conseille, c'est vraiment, vraiment sur tous tes collaborateurs, tous tes prestataires, on va dire experts, externes, que tu leur poses des questions quand tu ne comprends pas. Et si jamais tu sens que dans leurs réponses, vraiment, ça paraît didactique et simple pour toi, franchement, mais vas-y, au contraire, c'est génial. Et quand tu commences à avoir des collaborateurs comme ça, externes, qui sont des personnes avec lesquelles, qui t'expliquent les choses et qui se mettent vraiment à ta disposition, mais franchement, c'est un bonheur de bosser avec. Si à l'inverse, t'es presque plus gêné de parler avec eux parce qu'en fait, un mot sur deux, tu le comprends pas et que t'as presque l'impression, tu vois, de l'ennuyer quand tu lui poses des questions, non, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour toi, tu vois, il faut que t'en trouves un autre.
C'est très vrai, ça. C'est aussi, savoir écouter un petit peu aussi ces signaux faibles de du relationnel, et etc. Et pas forcément se dire, OK, c'est le meilleur, la meilleure personne pour moi ou le meilleur avocat parce qu'on me l'a recommandé par un tel. C'est vraiment la relation qu'on va aussi établir avec lui et sa capacité aussi à comprendre mon business parce que fois, c'est trop standardisé et finalement, je ne me reconnais pas dans ce qu'on me recommande.
Exactement, exactement. Mais vraiment, si tu veux, si je peux te donner un message, c'est presque plus, si tu veux, un message à toi, Laura, plus que la dirigeante, c'est il n'y a pas de questions stupides. Vraiment, il n'y a pas de questions stupides si jamais tu ne comprends pas. Et moi, j'ai mis des années avant de le faire. Parce qu'on est dans un système en France où lever la main à l'école, bah, en fait, c'est un peu un aveu de faiblesse. Que en tant que dirigeant, peut-être de femme aussi, bah, t'as honte parfois d'avouer que tu sais pas. Peut-être que t'as pas fait les études. Enfin, il y a plein de choses, je suis sûre, qui expliquent ce phénomène. Mais en fait, dis-toi que c'est pour le mieux de ta boîte. Il faut que tu poses ces questions parce que toi, ton devoir de dirigeant d'entreprise, c'est de comprendre. Et en fait, il faut du coup que tu trouves les bonnes personne pour t'expliquer parce que c'est pas ton expert comptable qui va diriger ta boîte, c'est toi. Donc en fait, même si lui il a compris, on s'en fout. Il faut que toi t'aies compris. Et donc c'est hyper hyper important que tu passes ce cap si tu veux te dire, t'as commencé en fait par te dire ça, parfois il y avait des sujets complexes que tu comprenais pas. Il faut vraiment que tu dises, bah non, en fait, c'est pas grave, je pose des questions inlassablement et puis si jamais la personne n'arrive pas à m'expliquer, une fois de plus, je passe à autre chose. C'est juste que c'est pas la bonne personne, il y a pas de jugement, mais c'est comme ça. Ouais. Et vraiment mon message c'est de prendre confiance en toi, quoi. Pour que tu te rendes compte que poser une question, c'est pas être bête. Une fois de plus, j'insiste un peu dessus parce que souvent, en France et dans d'autres pays, poser une question, en fait, les gens en ont honte en se disant « ça veut dire que je sais pas, ça veut dire que c'est un peu un aveu d'échec ». C'est faux. Au contraire, pour moi, c'est un aveu d'intelligence. Parce que ça veut dire que tu vas challenger l'existant et que tu veux vraiment comprendre le fond et pas juste, si tu veux, en surface.
Ça m'amène juste à une autre question de t'entendre de ce conseil-là. Du coup, justement, ce que je me demande parfois, c'est que je peux passer une journée à explorer des sujets pour essayer de comprendre un petit peu le fond du sujet. Et je suis un peu une maniaque de la compétitivité et de la productivité, on va dire. Et donc, je me dis toujours, j'ai l'impression que voilà, j'ai passé, je sais pas, 4 heures à lire sur un sujet sans avoir toujours compris le tenant et l'aboutissant. Et du coup, je me demandais justement, dans ce rôle de dirigeant, est-ce que voilà, c'est normal de passer beaucoup de temps j'ai envie de dire sans produire en fait et plus à investir.
Bien sûr, énormément de temps. Enfin, je pense que c'est même assez fondamental si tu veux. C'est du temps de réflexion. Comment veux-tu avoir une vision sur ta boîte si tu prends pas de temps pour faire des benchmarks, réfléchir, regarder la concurrence, observer? Si t'es juste dans la production, donc c'est très bien, il faut produire. Mais si t'es uniquement dans la production, si tu veux, tu vas jamais avoir de vision, tu vas jamais réfléchir, tu vas juste être en train de faire. Et donc c'est un équilibre qui est pas évident, mais il faut vraiment séparer les choses. Donc oui, c'est positif de prendre ce temps-là. Après, bah, il faut le faire quand même sur des choses qui ont de la valeur ajoutée. C'est sûr que parfois, passer 4 heures à travailler sur un sujet qui n'a en fait que très peu d'importance pour ta boîte, si tu veux, c'est pas forcément la meilleure utilisation de ton temps. Peut-être qu'il vaut mieux que tu staffes quelqu'un de ton équipe pour le faire, parce qu'en fait, c'est pas fondamental que ça soit toi. Donc, à la rigueur, moi, la réponse, elle est simple. C'est oui, oui, mille fois oui, il faut que tu investisses sur des sujets qui sont importants pour toi et pour ton entreprise. Mais par contre, toi, ton job d'entrepreneur et de dirigeant, c'est en permanence de te poser la question, est-ce que ça, c'est moi qui dois le faire? Est-ce que c'est vraiment important que moi, je creuse ce sujet? Ou en fait, est-ce qu'il faut que ça soit quelqu'un d'autre de mon équipe?
Ouais. J'ai pas du tout assez le réflexe de faire ça. J'essaie toujours d'abord de le faire par moi-même et puis... Et puis ensuite, je cherche à aller déléguer, mais peut-être qu'en effet, il faut se poser ces questions-là plus en amont. Et peut-être, au lieu de le faire, d'investiguer seul aussi, d'investiguer à deux, ça peut faire un effet de rebond.
Ouais, exactement.
Et débloquer.
Bah, dis-toi que... À terme, en fait, dans ton entreprise, vous allez quand même vous spécialiser. Tu vas voir, même si toi, t'aimes le marketing, d'après ce que je comprends, bah, peut-être que ce sera toi qui va le gérer, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre dans ta boîte et que toi, tu vas te concentrer sur d'autres choses. Peut-être que tu auras quelqu'un qui sera vraiment en charge de la partie opération, donc par exemple, gestion financière, comptable, des freelances, tous ces trucs-là. Et si tu veux, il est plutôt sain dans une entreprise que les gens se spécialisent et que chacun ait ses missions et ses responsabilités parce que c'est juste plus sympa. Parce que plus responsabilisant, les gens deviennent vraiment bons et passionnés par ce qu'ils font. Alors que si toi, tu fais un petit peu tout et surtout, tu essayes de tout faire toi, tu vas juste devenir un goulot d'étranglement pour ta boîte. Ce qui est évidemment le grand classique. Quand je dis le grand classique, je suis passée par là, tout le monde est passé par là, je fais des rechutes. Enfin, tu vois, c'est pas, il n'y a pas de jugement. Mais je veux dire, c'est un peu le problème quand on crée sa boîte, quoi. C'est qu'en gros, on est très souvent le goulot d'étranglement. Et toi, en permanence, surtout si tu es en train de croître beaucoup, bah, faut que tu dises, il faut précisément pas que je sois le goulot d'étranglement. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu trouves des moyens pour que bah, tu responsabilises des personnes dans ton entreprise pour prendre le relais et pour juste avoir plus de puissance, parce qu'à plusieurs, on fait plus que tout seul.
Bien sûr. Et justement, dans cette puissance et du coup, dans le côté justement délégué, aller chercher les experts, etc., depuis le début, en fait, la collab, elle s'est créée sur un modèle d'autofinancement. En fait, on a une activité qui est rentable, qui fait des bénéfices. Les bénéfices sont réinjectés l'année d'après pour réinvestir et pour donner encore plus d'envergure, on va dire, aux freelances qui font partie de l'entreprise. Mais justement, je me pose aussi cette question, c'est pour passer ce cap et m'entourer des bonnes personnes et peut-être arriver à déléguer, c'est peut-être là aussi le moment où il faut aller chercher du financement bancaire, subvention ou autre.
Ouais, ça, bah, écoute, oui, ça peut tout à fait. Si aujourd'hui, je connais pas les chiffres de ton entreprise, mais si tu sens, si tu veux, que pour bah, toi te libérer du temps et justement te consacrer plus au développement de l'activité, à de nouveaux produits, à la vision de la boîte, et qui sont pas des trucs pipeaux, hein, je le précise, qui sont en fait fondamentaux et la structuration de ton entreprise, typiquement réfléchir là comme on est en train de le faire aujourd'hui à est-ce que je dois le financer l'entreprise, est-ce que je dois déléguer, à qui je dois déléguer, etc. Donc ça, c'est ça ton job si tu veux d'entrepreneur. Probablement qu'il va falloir que tu recrutes des personnes pour t'assister sur plein de missions ou plein de tâches que tu fais aujourd'hui qui te prennent un temps fou et qui sont pas forcément en fait qui sont importantes, mais en fait c'est pas important que ça soit toi qui les fasses. C'est ça la question, si tu veux. C'est est-ce que c'est important premièrement, donc là oui on le garde, sinon on l'élimine. Mmh. Et si c'est important, est-ce que c'est moi qui dois le faire ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et a priori, je suis sûre qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais aujourd'hui où tu pourrais te libérer énormément de temps et surtout avoir des personnes qui seraient peut-être plus expertes et responsabilisées vraiment sur ce sujet spécifique si tu le déléguais. Donc on prend l'exemple par exemple du marketing. Je sais pas, tu pourrais avoir une personne qui soit vraiment dédiée à temps plein au marketing et donc à acquérir des leads si tu veux pour ton business. Ça pourrait être une personne qui serait en charge, je sais pas, de la communication, donc relations presse, influence, etc. Ça pourrait être une personne qui serait dédiée vraiment, on en parlait tout à l'heure, aux opérations, donc dont le job, si tu veux, c'est de faire en sorte que la gestion soit bonne, que ça roule. Tu vois, c'est la question qu'il faut que tu poses, effectivement. Et si aujourd'hui, tu as la capacité de payer ces personnes-là avec tes fonds propres, tant mieux. Si jamais ça n'est pas le cas, effectivement, ça peut être une bonne option que soit de trouver un prêt, et si tu as été rentable pendant des années, bah, a priori, je pense que tu y arriveras. Ouais. Sinon, effectivement, l'option de lever des fonds est une bonne option. L'option de lever des fonds, on va pas en parler en détail parce que ça mériterait un épisode entier, mais elle est ni bien ni pas bien. C'est juste qu'il y a une réalité, c'est que si tu lèves des fonds, bah, tu auras d'autres associés dans ton entreprise. Donc, ça veut dire que ce qui est super, c'est que tu auras eu de l'argent en échange de parts de ton activité. À l'inverse, ça veut dire qu'aussi, tu leur seras redevable, notamment au niveau des chiffres, probablement, d'un certain nombre de contraintes administratives. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus la panacée. C'est-à-dire que tout dans la vie, si tu veux, quand tu y a des trade-offs, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est pas gratuit, tu vois.
Oui. Oui, oui. Non, je pense que, enfin, la levée de fonds, c'est vrai que en tout cas, j'ai jamais créé, avancé avec cette idée de lever des fonds et... Je sais qu'on était dans une période où il y avait beaucoup de startups qui cherchaient à lever des fonds, etc. Et j'ai toujours été plutôt sur un modèle, voilà, de étape par étape, rentabilité first. Bon, je suis là dans la prestation de service aussi, donc je pense que c'est une vision, en tout cas, plus durable et plus peut-être sereine d'avancer comme ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Et je pense qu'en effet, j'activerai d'abord plutôt du financement bancaire avant de la levée de fonds.
Bah, en tout cas, dis-toi que si tu prends cette décision maintenant, elle est pas irréversible et que dans 3 ans, si tu veux lever des fonds, tu vois, tu pourras peut-être le faire à ce moment-là. Donc, il faut pas non plus que tu le vives comme la décision, tu vois, de ta vie qui ensuite va t'empêcher d'avancer.
Ouais. Bah, en tout cas, c'est vrai que ça m'aide de cette discussion sur, vraiment, je retiens, mon rôle, c'est de poser les bonnes questions pour m'assurer que ben on va répondre à toutes les, on va dire les enjeux quand on va prendre quand on va choisir un axe plutôt qu'un autre. Donc ouais, poser les bonnes questions, je pense que c'est vraiment le ce qui aidera le plus le collectif à avancer.
Je pense aussi. Bon, bah écoute, je suis ravie, Laura, si j'ai pu t'aider un peu. En tout cas, c'était un plaisir de te parler. Je te souhaite le meilleur. J'ai hâte de savoir comment ça se passe et si tu commences à t'entourer de collaborateurs qui te conviennent plus. Je suis sûre que ça va te faire gagner un temps fou.
Je te tiendrai au courant.
Bah, merci à toi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, tiens-moi au courant. Et puis peut-être à bientôt, du coup.
Ça marche. À bientôt, Pauline. Merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi. Ciao.
Ciao.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.